Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 20 avril. À la une ce soir.
En Guinée, l'opposition défie le pouvoir et relance les manifestations à Conakry.
Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attentat suicide contre un bus des Nations Unies ce lundi dans le nord de la Somalie et qui a fait au moins 7 morts.
La police kényane a arrêté un imam soupçonné d'avoir été impliqué dans le financement de l'attentat contre l'université de Garissa.
Le naufrage d'un chalutier hier au large de la Libye avec 700 personnes à bord a choqué le monde entier. Réunion ministérielle de l'Union européenne sur cette question aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 6 hommes ont été arrêtés et inculpés aujourd'hui pour leur soutien présumé au groupe État islamique.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Guinée, l'opposition est redescendue dans les rues de Conakry. Malgré l'interdiction des manifestations, il y a eu de nouveaux heurts avec les forces de l'ordre. Le point avec Idriss Fall.
Pour l'ancien Premier ministre Sidi Touré, c'est une autre journée très bien réussie pour l'opposition qui a paralysé toute la ville. De son côté, le gouvernement a réaffirmé que ces manifestations n'étaient pas autorisées. Les forces de l'ordre étaient déployées en masse sur les grands axes de Conakry. Il y a eu des heurts sporadiques avec des tirs de gaz lacrymogène et des jets de pierre. Les commerces, stations-service et les écoles étaient fermées en banlieue. Le gouvernement annonce qu'un élève gendarme a été blessé et qu'il y a eu 2 interpellations. Ces manifestations surviennent au lendemain d'une ébauche de dialogue. Une délégation conduite par le ministre de la Justice, Cheikh Sako, s'est rendue chez le chef de file de l'opposition. Cette rencontre était une première depuis 2013, mais Sellou d'Alain Diallo avait exclu toute suspension des manifs sans l'annulation du calendrier électoral qui prévoit les locales en 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015.
La nouvelle du naufrage d'un chalutier hier au large de la Libye avec potentiellement 700 personnes à bord a choqué le monde entier. L'Union européenne admet qu'elle devait prendre à bras-le-corps la question des migrants en Méditerranée, question qui était aujourd'hui au menu d'une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur de l'Union européenne, Salwa Jafari.
La pire hécatombe jamais vue en Méditerranée, selon les propos du HCR. Le chavirement d'un chalutier transportant des migrants pourrait avoir fait jusqu'à 700 morts dans la nuit de samedi à dimanche. 28 cadavres ont déjà été repêchés au large des côtes libyennes. Selon les témoignages des survivants, les passagers se seraient massés du même côté à l'approche d'un navire marchand. Entre 500 et 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens. La météo plus clémente, les migrants n'hésitent pas à tenter leur chance. Flavio Di Giacomo de l'Organisation internationale des migrations explique que les drames sont dus à la vétusté des bateaux utilisés par les trafiquants. De plus, il est difficile de conduire des opérations de secours massives. Les appels de détresse sont de plus en plus nombreux. Des appels que l'Union européenne semble avoir entendus, puisque la question a été soulevée aujourd'hui lors d'une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur de l'Union européenne au Luxembourg. Le ministre des Affaires étrangères allemand Steinmeier parle de défis, disant qu'il n'y aura pas de solution rapide, mais que l'Europe devait aux victimes et à leurs familles de prendre des mesures le plus vite possible pour arrêter l'hémorragie. Selon le HCR, 35 000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l'Europe depuis le début de l'année. 1 600 sont toujours portés disparus.
Le gouvernement centrafricain, par la voix de son porte-parole, le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, rejette l'accord signé à Nairobi, au Kenya, par Michel Djotodia et François Bozizé. Lequel accord est censé appuyer la feuille de route de la transition dans le processus de réconciliation nationale. Par ailleurs, cette décision remet en cause la participation des anciens chefs d'État au forum inclusif de Bangui, prévu du 27 avril au 4 mai prochain. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Modibo Bachir Walidou, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Cet accord, ou ce que l'on appelle l'accord de Nairobi, ou la déclaration de Nairobi, le gouvernement ne se sent pas engagé par cet accord. Cependant, dès lorsqu'il s'agit de fils du pays qui émettent le vœu de revenir à la raison de suivre la voie du processus qui a été lancé à Brazzaville le 23 juillet 2014, les Centrafricains attendent de voir si ces déclarations, si ces accords sont suivis sur le terrain par des activités qui tendent à renforcer la paix, il n'y a pas de problème.
Et oui, que dites-vous, monsieur le ministre, quant à la participation d'Otto Ndiaye et Bozizé au prochain forum de Bangui?
Par principe, le gouvernement ne s'oppose pas au retour de quelques Centrafricains que ce soit au forum. Le forum est inclusif. Simplement, nous observons qu'il y a des conditions à ces choses-là. Il faut que ces organes-là estiment que leur arrivée, leur participation n'est pas de nature à créer de nouveaux troubles dans le pays. Et puis, il y a tout ce qui a rapport avec la justice et la justice nationale, la justice internationale.
Le porte-parole du gouvernement centrafricain Modibo Bachir Walidou.
Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attentat suicide contre un bus des Nations Unies ce lundi dans le nord de la Somalie, ayant fait au moins 7 morts. Le minibus transportait du personnel de l'UNICEF dans la ville de Garoué. Selon une source onusienne sur place, un homme a couru droit sur le bus et a actionné sa ceinture d'explosifs. Selon la police, 2 Somaliens, le kamikaze et 4 étrangers sont morts dans l'explosion. Il s'agit de 2 Kenyans, d'un Ougandais et d'un Afghan, a précisé un reporter de la Voix de l'Amérique à Garoué. L'ONU a transporté à Nairobi les corps et 8 personnes blessées. Le représentant de l'ONU en Somalie, Nicolas Kay, a qualifié l'attaque d'acte flagrant de terrorisme et de tentative désespérée de faire échouer la paix et la stabilité en Somalie.
La police kényane a arrêté un imam soupçonné d'avoir été impliqué dans le financement de l'attentat terroriste contre l'université de Garissa, dans lequel Al-Shabaab a tué 147 étudiants. La police a déclaré ce lundi que le cheikh Hassan Mahat Omar a été arrêté vendredi dernier. Selon elle, il est étroitement lié à Mohamed Kuno, portant plusieurs pseudonymes, le chef d'Al-Shabaab dans la région de Djouba en Somalie et le cerveau de la récente attaque à Garissa.
Nouvelle sortie du roi Zulu Goodwill Zwelithini, qui dit n'avoir provoqué en rien les violences xénophobes dont sont victimes les immigrants africains en Afrique du Sud. Précision, Timothée Donagmaï.
Selon les médias sud-africains, c'est un discours prononcé le 23 mars dernier en langue zoulou par le roi Zwelithini qui a mis le feu aux poudres. Il aurait notamment appelé les étrangers à, je cite, « faire leurs bagages et quitter le pays ». Ce lundi, le roi zoulou a catégoriquement démenti avoir tenu de tels propos. S'exprimant lors d'un meeting au stade de Durban, Goodwill Zwelithini, que cite l'AFP, a notamment déclaré « cette violence envers nos frères et sœurs est une honte, protégeons nos frères et sœurs africains ». Il a expliqué que son message controversé était en fait un appel à la police pour qu'elle applique mieux les lois et lutte contre la criminalité et l'immigration illégale. Le président sud-africain Jacob Zuma et l'ANC, le parti au pouvoir, ont dénoncé la vague de xénophobie qui a fait au moins 7 morts et des milliers de déplacés ces 2 dernières semaines avant de s'estomper. Parmi les groupes particulièrement visés, les commerçants bangladais, somaliens et éthiopiens, mais aussi les Congolais et les Nigériens.
Et Timothée, il faudrait aussi mentionner cette rumeur persistante faisant état d'un soi-disant programme d'asile aux personnes déplacées par les violences xénophobes en Afrique du Sud. Elle fait le tour des réseaux sociaux et malheureusement, des gens y croient. Et serait même allé, on a appris, à la mission diplomatique américaine, demandant d'être considéré dans le cadre de ce prétendu programme. Le pire, c'est que notre nom, le nom de VOA Afrique, aurait été associé à tort à cette rumeur fantaisiste.
Eh bien Gabi, VOA Afrique couvre dès le début cette tragédie des immigrés africains, victimes de la xénophobie en Afrique du Sud, mais nous n'avons fait état d'aucune décision de l'administration américaine qui garantirait l'asile aux États-Unis aux victimes de cette tragédie. Aucune de nos plateformes n'a diffusé une information de cette nature et nous n'avons pas connaissance d'un récent changement de la politique américaine en matière d'asile ou de réinstallation des déplacés et de réfugiés concernant les pays africains.
C'est le propre des réseaux sociaux, Timothée, de diffuser l'information légitime, oui, mais aussi, malheureusement, la rumeur.
Le gouvernement éthiopien a confirmé l'identité des 30 chrétiens massacrés par le groupe État islamique au lendemain de la publication d'une vidéo montrant la décapitation ou le meurtre par balle de plusieurs dizaines d'hommes présentés comme des chrétiens venus d'Éthiopie.
Ici aux États-Unis, des agents fédéraux ont arrêté 6 personnes soupçonnées de planifier un voyage en Syrie afin de se joindre au groupe État islamique. Ces 6 hommes sont tous membres de la communauté somalienne américaine du Minnesota. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Gros-Didier.
À Jakarta, en Indonésie, les ministres d'Asie et d'Afrique ont achevé une réunion visant à préparer le sommet Asie-Afrique 2015 et la 60e conférence Asie-Afrique prévue du 22 au 24 avril. Ils se sont engagés à mettre en œuvre l'esprit dit de Bandung, qui met l'accent sur la coopération sud-sud. Parmi les domaines dans lesquels les pays africains souhaitent renforcer leur coopération avec l'Asie, selon les participants, les textiles, le pétrole et l'agriculture notamment. À l'occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes, l'ONG Oxfam et ses partenaires, dans le cadre de la campagne Cultivons, ont appelé la CEDEAO à redynamiser sa politique agricole commune. On écoute Jérôme Gérard, coordonnateur régional, recherche et politique pour l'Afrique de l'Ouest à Oxfam.
C'est un ensemble de préoccupations que nous souhaitons partager avant tout avec la CEDEAO, donc la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et les États membres, quant à la façon de mettre en œuvre de façon concrète et effective tous les engagements pris à un niveau panafricain en juin 2014 à Malabo lors du sommet de l'Union africaine, avec des engagements très très forts qui ont été pris.
Jérôme Gérard d'Oxfam. Et puis, 7 équipes se sont affrontées ce week-end en Côte d'Ivoire à l'occasion du hackathon organisé à Abidjan. Pendant 2 jours, une trentaine de concurrents ont rivalisé pour présenter et affiner leurs projets informatiques.
Merci Camille pour la Minute Éco.
On passe tout de suite à notre page sport. Bagassi Koura nous rejoint en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Et on commence par les 8e de finale aller de la Coupe de la CAF, jouée ce week-end.
Oui, au stade Modibo Keïta de Bamako, Hearts of Oaks du Ghana a battu vendredi le Djoliba AC de Bamako. Score 2-1 en faveur des visiteurs. Le Warri Wolves du Nigeria ont défait le MK étanchéité de la RDC 2-1, match nul entre les Young Africans de Tanzanie et l'Étoile du Sahel, 1-0. Le Vita Club de la RDC, lui, s'est fait piéger par le Royal Léopard du Swaziland, 1-0. 0-0 entre le Zamalek d'Égypte et le Fous de Rabat. Également, match nul entre le CF Mounana du Gabon et Orlando Pirates d'Afrique du Sud, 2-0. Et cette victoire de l'ASEC Mimoja d'Abidjan qui est allé arracher donc sa qualification face aux 11 créateurs de Bamako, 1-0.
Un mot des huitièmes de finale aller de la Ligue africaine des champions.
Oui, samedi au stade Modibo Keïta, toujours à Bamako, les Congolais du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi se sont fait accrocher par le stade malien de Bamako avec ce match nul, 2-0.
Basketball, NBA, on est en plein dans les playoffs depuis samedi.
Oui, et hier soir, Cleveland a battu Boston 113-100. Brooklyn n'a rien pu contre Atlanta, 92-99. Défaite de Portland face à Memphis, 100-86. Et enfin, Chérubin, retenez bien, San Antonio a bien perdu face aux Clippers de Los Angeles, 107-92. Et ne dites pas un mot, ce soir, le Bucks de Milwaukee affronte Chicago, qui avait gagné samedi la première confrontation. Et New Orleans joue contre les Golden State Warriors.
J'ai pas entendu Washington Wizards. Washington est allé battre Toronto. Ça, il faut le dire, Bagassi Koura. Et pour finir, le marathon de Boston.
Oui, la ville de Boston a eu ce lundi son 2e marathon après les attentats de 2013, pour lesquels, d'ailleurs, le jeune Johar Tchernaïev attend sa sentence. C'est l'Éthiopien Lelissa Deziza qui a remporté cette édition en 2h09min17s.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Nathalie Barge en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour. Nathalie ?
Oui, première escale, le Mali, où la cérémonie de signature de l'accord de paix est prévue le 15 mai à Bamako. Le président Ibrahima Boubacar Keïta a d'ailleurs confirmé cette date annoncée par la médiation algérienne. Mais l'accord d'Alger n'a toujours pas été paraffé par la coordination des mouvements de l'Azawad. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Shahana Takiou, directeur du journal le 22 septembre à Bamako.
La médiation algérienne a échoué. Il faut avoir le courage de le dire. Comment est-ce que on peut inviter le gouvernement du Mali et les différents mouvements armés à signer un accord le 15 mai, alors que la partie significative du conflit qui constitue la coordination du mouvement de l'Azawad a refusé de paraffer le document? Pour qu'il ait signature, il faut qu'il ait paraffe. La coordination du mouvement de l'Azawad demande qu'il ait l'ouverture de nouvelles négociations. Au lieu que la diplomatie algérienne s'active pour convaincre ces rebelles-là, elle décide de façon unilatérale une date pour signer la paix. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable.
Mais pourtant, le président Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé cette date.
IBECA a confirmé cette date. IBECA est aligné sur la position algérienne. Supposer que cet accord-là soit signé, comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre sans une partie significative du problème que constitue la coordination du mouvement de l'Azawad? Si eux, ils ne sont pas là, comment est-ce qu'on va faire la démobilisation, le cantonnement, le désarmement, la réintégration, l'intégration? Et c'est dommage que le président du Mali envoie le pas à l'Algérie en applaudissant cette proposition de l'Algérie. On ne prépare pas la paix de cette manière-là. Il faut prendre encore le temps pour convaincre les gens, les convaincre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une phase où on peut montrer les muscles à aller à la guerre. Non, on a dépassé la période de la guerre. Nous sommes dans un processus de paix, un processus de réconciliation nationale. Il faut prendre le temps qu'il faut, négocier. L'Algérie a les moyens qu'il faut pour amener ces gens-là à la raison.
Il y a quand même quelques dissensions au sein de la convention des mouvements de l'Azawad. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec le MNLA.
Non, les gens disent qu'il y a dissension. Qu'on nous prouve qu'il y a des dissensions à la fin. C'est vrai que s'il y a un groupe, il peut avoir des points de vue divergents. C'est inhérent à une telle démarche qu'il y ait des points de vue divergents. Cela veut dire que quelque part, la majorité l'a remporté, une majorité qui dit qu'il ne va pas paraffer le document, qu'il ne va pas signer le document, et nous sommes dans cette situation-là. Et je ne vois pas comment est-ce que la coordination du mouvement de l'Azawad pourrait signer le document le 15 mai.
Est-ce qu'on ne peut pas les ramener à de meilleurs sentiments d'ici le 15 mai alors?
C'est ce qui est souhaitable. D'ici le 15 mai, arriver à les amener à de meilleurs sentiments pour paraffer le document, cela veut dire que la signature serait reportée, de mon point de vue.
Notre confrère Shahana Takiou était joint à Bamako, au Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Les assemblées annuelles de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont pris fin hier à Washington, ici aux États-Unis. Des assemblées entachées par un scandale, il faut le dire. Selon une enquête menée dans 14 pays, les projets financés par la Banque mondiale ont contraint 3 400 000 personnes à être déplacées depuis 2004. Et ce, sans aide ou compensation financière et parfois avec des atteintes flagrantes aux droits de l'homme. Ce scandale a été révélé par l'ICIG, le consortium international de journalistes d'investigation, qui avait notamment été à l'origine des révélations de SwissLeaks. Nicolas Montbrial est le directeur d'Oxfam à Washington. Oxfam est l'une des ONG qui fait pression sur la Banque mondiale pour qu'elle indemnise ces personnes déplacées. Nicolas Montbrial.
Quand la Banque mondiale investit dans un projet, elle est censée travailler avec les gouvernements locaux pour que les populations qui soient déplacées soient compensées, soit par de la terre, soit par de l'argent. L'audit interne de la Banque mondiale dit qu'en fait, la banque ne sait pas combien de personnes sont déplacées suite à ces projets. Et pire que ça, la Banque mondiale ne sait pas si les gens sont mieux après leur projet ou pire. En réaction à ça, le président de la Banque mondiale, Jim Kim, a reconnu ses erreurs et a proposé un plan d'action.
Et qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'ONG, du plan d'action proposé par la Banque mondiale ?
C'est bien que Jim Kim ait reconnu qu'ils avaient fait des erreurs. C'est un changement par rapport à certains autres présidents. Mais le plan d'action qu'il propose est très insuffisant. La première question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes les populations qui ont été déplacées, qui ont souffert? Est-ce qu'on dit juste on a fait des erreurs et on les oublie? J'ai pas le chiffre exactement, mais même si c'est 3,6 millions de déplacés, même si 1 million de personnes qui ont souffert, la banque devrait peut-être faire quelque chose pour les compenser ou aller les aider maintenant. La deuxième chose, c'est que le plan d'action se base totalement sur les politiques existantes de la Banque mondiale en termes de droits environnementaux et sociaux qui sont en train de réviser et que beaucoup de gens disent que cette politique est insuffisante. Peut-être un troisième problème, en fait, c'est que ce plan d'action a été pondu totalement par la Banque mondiale, sans consultation avec les personnes qui ont une expérience énorme de ce genre de situation quand on déplace les populations, qu'est-ce qu'on doit faire? Et d'après ce que je comprends, même le board de la Banque mondiale n'a pas été consulté.
Et y a-t-il eu des réactions de la Banque mondiale suite à la publication de cette affaire?
Oui. Donc, dans sa conférence de presse d'ouverture, le président de la Banque mondiale, Jim Kim, a dit qu'il était au courant de cette histoire. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'il semble aller dans une logique où il dit oui, bon, vous êtes gentil, mais pour faire du développement, il faut construire des infrastructures. Construire des infrastructures, ça veut dire que des gens sont déplacés, ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Europe, et voilà, c'est la logique du truc. Il a mentionné qu'il fallait s'assurer que les gens soient déplacés avec des politiques de remplacement, etc. Mais on a l'impression que dans sa logique, maintenant, c'est ça fait partie du développement et ça doit être comme ça. Et c'est une mécompréhension de ce que disent les ONG. Aucune ONG ne dit qu'on ne doit pas faire d'infrastructures et que des gens ne doivent pas être déplacés. On dit juste que quand on fait des infrastructures, que les gens soient déplacés, il faut s'assurer que les gens finissent mieux qu'ils étaient avant ou au moins avec un niveau de revenu similaire.
Nicolas Montbrial de l'ONG Oxfam au micro de Claire Morin-Gibourg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À l'occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes, Oxfam et ses partenaires, dans le cadre de la campagne Cultivons, ont appelé la CEDEAO à redynamiser sa politique agricole commune. L'année 2015 devrait constituer une année charnière pour les exploitations familiales qui sont au cœur des préoccupations, explique l'ONG qui a appelé les dirigeants ouest-africains à tenir les engagements pris lors du sommet de l'Union africaine à Malabo l'an dernier. Écoutez Jérôme Gérard, il est coordonnateur régional de recherche et politique pour l'Afrique de l'Ouest à Oxfam.
C'est un ensemble de préoccupations que nous souhaitons partager avant tout avec la CEDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et les États membres, quant à la façon de mettre en œuvre de façon concrète et effective tous les engagements pris à un niveau panafricain en juin 2014 à Malabo lors du sommet de l'Union africaine, avec des engagements très très forts qui ont été pris, et comment ça peut être décliné au niveau ouest-africain à travers la politique régionale agricole commune et les stratégies et politiques à l'échelon national des pays. Dans ce contexte, l'année 2015 est importante pour tout l'aspect de la mise en œuvre du marché ouest-africain qui, évidemment, constitue la porte de débouché des productions agricoles. Et depuis le mois de janvier, la CEDEAO a donc mis en œuvre un tarif extérieur commun pour prendre des droits de douane sur toute une série de produits qui entrent de l'extérieur de la sous-région avec différents niveaux de taxes d'entrée. Nous souhaiterions savoir comment mesurer l'impact que la mise en œuvre de ce TEC peut avoir sur la dynamisation de certaines filières de production agricole ou de l'élevage ou de la pêche pour soutenir l'activité des exploitants familiaux. C'est un contexte spécifique de l'année 2015. Le TEC a démarré au 1er janvier.
Oxfam insiste dans son communiqué sur la nécessité de donner priorité à l'agriculture familiale.
Oui, tout à fait, mais notre préoccupation, c'est vraiment que à partir d'un discours politique qu'on entend de plus en plus fortement depuis quelques années, d'accorder une forme de priorité au secteur de l'agriculture et notamment comme base de développement général des pays, que les politiques et les investissements, donc les budgets qui sont élaborés pour mettre en œuvre cette priorité, touchent principalement les exploitations familiales qui constituent 80% du tissu agricole et qui produisent l'essentiel de l'alimentation des consommateurs ouest-africains et africains de façon générale.
Jérôme Gérard d'Oxfam répondait aux questions de Camille Gros-Didier.
Traite des enfants au Sénégal par les écoles coraniques. La situation s'est détériorée depuis l'an dernier, selon un nouveau rapport de Human Rights Watch et la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains. Des milliers d'enfants maltraités, dont certains n'ont pas plus de 5 ans, sont forcés de rapporter quotidiennement encore plus d'argent et de nourriture, et certains sont également exploités par l'entourage des prétendus maîtres coraniques, rapporte Human Rights Watch, affirmant que les autorités ont échoué à poursuivre les agresseurs et à réglementer les dara. Nathalie Barge, vous avez joint Maudine Diaye, secrétaire permanente de la cellule contre la traite des personnes du ministère de la Justice.
Il n'y a pas beaucoup de jugements encore, mais c'est dû au fait qu'il y a un travail important que nous sommes en train de faire parallèlement à cette loi-là. C'est celle de la vulgarisation sur la conception même de la traite, parce que tous les enfants qui fréquentent les écoles ne sont pas victimes de traite. Il faut passer par les procédures qui pourraient aboutir à des jugements. Pour qu'un cas puisse aboutir à un jugement, il faut une enquête. Il n'y a que le juge qui est habilité à qualifier le cas de traite ou d'autre chose devant les tribunaux. Il y a eu une condamnation récente à Saint-Louis sur un cas de maltraitance qui n'a pas été jugé comme cas de traite. La cellule a créé une base de données relative à la traite qui va être mise en œuvre sous peu pour nous permettre justement de recenser systématiquement les cas de traite qui pourraient être attrait devant la justice. Nous avons une cartographie aujourd'hui de ces écoles qui a été commanditée par la cellule et au niveau du département de Dakar, nous savons combien il y a d'écoles, la typologie, etc., etc. L'autre réponse qu'est en train de rapporter l'État, c'est celle de la mise en place d'un projet de mode qu'on appelle de modernisation des dara, mais qui va les normer. À partir du moment où ce projet va être adopté, ça permettra plus facilement de mener des enquêtes. C'est un processus un peu plus complexe.
J'ai bien compris la complexité du processus, mais lorsque vous voyez des enfants qui mendient dans la rue, est-ce qu'il n'y a pas une cellule spécifique au ministère de la Justice pour retirer d'urgence ces enfants de la rue et leur apporter une protection nécessaire?
C'est la cellule de lutte contre la traite des personnes.
C'est la vôtre.
Voilà, ses vertus à la prévention, à la répression et à la protection. C'est un ensemble d'acteurs qui va intervenir. Nous travaillons beaucoup avec les ONG, la société civile, qui fait partie d'ailleurs de la cellule. Il n'y a pas encore cet élément automatique qui fait que dès qu'un enfant est dans la rue, nous puissions intervenir tout de suite. Il y a un premier rapport annuel sur la question qui est état des lieux et mise en œuvre du plan d'action de lutte contre la traite que nous devons soumettre à Monsieur le Premier ministre, parce que c'est de lui que dépend la cellule. Et nous comptons justement dérouler un nouveau plan d'action avec l'ensemble des partenaires pour aller plus en avant dans la lutte contre la traite des personnes.
Maudine Diaye, secrétaire permanente de la cellule contre la traite des personnes au ministère de la Justice du Sénégal.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Mountou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
On arrive au terme de cette édition Le Monde Aujourd'hui. À la mise en onde ce soir, c'était Lionel Gaïma, à la console Chang. Présentation Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
22 degrés centigrades à Dakar, 23 à Kinshasa. Et c'était chaud à Conakry, 31 degrés centigrades et 24 ici à Washington, où de fortes averses sont prévues ce soir, Nathalie. Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA.